Le Crétois, c'est le journal de la vallée.
La vallée de la Drôme.
Et il paraît tous les vendredis.
C'est un hebdomadaire.
Et nous, à la radio.
Ça fait réole la radio.
Le journal, on le lit.
Pour vous.
Ça s'appelle Lecture du Crétois.
C'est toutes les semaines.
Et c'est maintenant. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de l'actualité locale sur Radio Saint-Ferréol avec la lecture du Crétois. Un monde pas possible aujourd'hui dans le studio, nous sommes très nombreux et nombreux. Il y a pour la lecture Thierry, Sophie, Fabien, Doris et moi-même Sarah, Martine en spectatrice et à la technique Béatrice et Raphaël. Alors, l'actualité aujourd'hui, dans ce numéro paru le 5 juin 2026, c'est quoi, Sophie? Tu peux nous en dire un peu plus?
Eh bien, écoute, c'est le lynx. Lynx, es-tu là? C'est pas esprit, es-tu là? Le plus grand félin d'Europe a été observé à plusieurs reprises dans la Drôme. L'avez-vous observé? Sa présence est à son image fantomatique. Croiser un lynx dans la Drôme, jamais de la vie, diraient certains. Et pourtant, ces 10 dernières années, le fantôme des forêts a été observé au moins à 5 reprises dans le département, plus particulièrement dans le périmètre du parc naturel régional du Vercors. L'observation la plus récente date de 2020. Le plus grand félin d'Europe a été aperçu dans le col du Rousset. Alors oui, le lynx rôde occasionnellement dans notre département et pourrait même bientôt s'y installer. Bien que plus discrète que celle de la présence du loup, celle du lynx a été constatée dans le Vercors. Élodie Waugh écrivait d'ailleurs la préfecture de la Drôme dans son point sur les populations protégées publié en avril dernier. Fourrure tachetée cryptique, visage encadré de favoris et oreilles surmontées de pinceaux de poils noirs, le lynx boréal est surnommé le fantôme des forêts en raison de son extrême discrétion. Le Beaufortois, Roger Mathieu, président honoraire de la FRAPNAN Drôme Nature Environnement, rappelle d'ailleurs que très peu de données sont validées sur le mammifère dans notre département. Le lynx, c'est un peu comme le monstre du Loch Ness, nous rappelle-t-il. Tout le monde le voit, mais personne ne peut le prouver. Car si de nombreux témoignages font état d'observations du félin dans le Vercors ces dernières décennies, il est aujourd'hui acquis qu'il ne s'y est pas sédentarisé. Ce dont je suis certain, c'est que ce n'est pas un animal très courant dans le Vercors, euphémise Rémi Gandhi, le président de la Fédération départementale des chasseurs de la Drôme. Pas au point d'affirmer cependant qu'il en est totalement absent. Le chasseur se souvient même d'avoir personnellement trouvé sa trace dans la neige dans les années 90, eh bien oui, pas loin des falaises, sur un clapier, un amas de pierres. Le grand félin aurait aussi été observé plus récemment, assure Roger Mathieu. En 2014, 4 amis naturalistes ont observé le lynx près de Combeauvin. Il a traversé la route, il a disparu dans la forêt. Ce sont des spécialistes qui connaissent l'espèce. On ne peut donc que croire leur témoignage.
Absence de preuve ou preuve de l'absence ? Dans le Vercors, on entend un bruit de fond, confirme Florie Basiro, coordinatrice du réseau Loup-Lynx dans la région Auvergne-Rhône-Alpes à l'Office français de la biodiversité. Il y a des témoignages, mais on n'a jamais eu dernièrement de photos de lynx ou de photos de traces de lynx qui attestent avec fiabilité de sa présence. Dans nos dossiers, on n'a aucune photo de lynx prise dans le Vercors, confirme Jean-Marie Wary, naturaliste et fondateur de l'association de protection de l'environnement Mille Traces, installé depuis 35 ans à Rousset-en-Vercors. L'absence de preuves n'étant pas pour autant, selon lui, la preuve de l'absence. Depuis 30 ans, on a des indices d'individus qui sont passés par le Vercors, qui ont feulé, gratté et qui ont tué une espèce sauvage en la manipulant de façon caractéristique, pense Jean-Marie Wary. Mille Traces collabore d'ailleurs depuis début 2025 avec la Société française pour l'étude et la protection des mammifères, SFEPM, dans l'objectif de documenter la présence ou l'absence du lynx dans le massif. Les deux structures ont mis en place un réseau de 22 caméras dissimulées dans le Vercors et le Diwa. Un dispositif exceptionnel qui pourrait permettre enfin de prouver la présence du lynx dans ces massifs. Réintroduit en Suisse dans les années 70, le lynx a progressivement franchi la frontière pour coloniser le Jura, les Vosges et les Alpes françaises. Sa présence dans le massif de la Chartreuse, en Isère, à quelques kilomètres seulement du massif du Vercors, est aujourd'hui établie, ce qui ne manque pas d'intéresser les naturalistes drômois. Juliette Caille, chargée de la mission Lynx à la SFEPM, supervise l'aspect technique du dispositif mis en place avec Miltras. La présence du lynx en Chartreuse place le Vercors comme une prochaine étape possible de son expansion vers le sud, estime-t-elle. Par ailleurs, les données de suivi par caméra automatique, de collisions routières et de témoignages indiquent la présence d'individus en dispersion en Isère. Le Vercors représente donc un secteur à enjeu pour le suivi de l'espèce. Mais la route est semée d'embûches pour le félin, qui peine à franchir les infrastructures urbaines, particulièrement denses entre la Chartreuse et le Vercors. Avant d'atteindre nos massifs, il devra traverser plusieurs axes routiers. Des obstacles qui tuent en moyenne 7 lynx chaque année en France, d'après le Plan national d'action pour la préservation du lynx.
Un constat préoccupant pour le président de l'association Miltras, qui milite pour l'installation de corridors de passage sous les routes. Il faut avoir conscience qu'une autoroute, c'est une barrière infranchissable pour toute la faune sauvage. Jean-Marie Ouary en conclut que le lynx arrivera dans le Vercors par le Trièvre ou par le Royan pour contourner Grenoble. La perspective d'une sédentarisation du félin dans notre département n'est donc pas extravagante, y compris pour Flore Badziro de l'OFB. Ce n'est pas exclu qu'il y ait un jour, à nouveau, du lynx dans le Vercors. Mais la traversée est vraiment difficile. Et si le lynx ne venait pas de lui-même s'installer dans nos massifs, il serait également possible que les humains lui facilitent les choses. Au début du printemps, le préfet de Bourgogne-Franche-Comté, coordinateur du plan national d'action en faveur du lynx boréal, plan d'action lancé en 2022 pour trouver des solutions aux menaces qui pèsent sur le félin, a en effet annoncé une expérimentation de lâcherie de lynx en 2027. Le territoire concerné ainsi que le nombre d'individus relâchés n'ont pas été évoqués lors de la réunion du comité de pilotage le 24 mars dernier à Dijon. Stéphanie Morel, animatrice du réseau Biodiversité de France Nature Environnement, a assisté à cette réunion. Elle indique que le Muséum national d'histoire naturelle étudie, avec les scientifiques, les trames de ce que pourraient être les lieux de lâcher. Nous ne savons donc pas encore si le lynx sera relâché dans les forêts du Vercors, mais une chose est sûre, le massif possède des caractéristiques nécessaires pour accueillir le fantôme des forêts. C'est un article de Rémi Gondy-Siriex.
En cellule pour une banderole. Deux Crétoises, ayant participé à une manifestation contre une déviation routière à Saint-Péray, dénoncent une répression violente à leur encontre. Ce sont deux jeunes femmes que nous appellerons Zaya et Jo pour préserver leur anonymat. Militantes écologistes, elles font partie d'un collectif qui lutte à Saint-Péray, en Ardèche, contre la création d'une déviation routière. Le 14 mai dernier, jeudi de l'Ascension, le collectif a lancé deux actions, l'une sur la voie ferrée en Ardèche et l'autre sur le pont Mistral à Valence. 8 militants, dont Zaya et Jo, ont ainsi tenu une banderole, deux se sont suspendus au-dessus de l'autoroute A7. Ils ont ainsi entravé le trafic pendant 2 heures, de 6h30 à 8h30. Au début, ça se passait bien avec les forces de l'ordre. Ils nous aidaient à réguler la circulation pour ne pas trop gêner les automobilistes, témoigne Zaya. Tout change avec l'arrivée des gendarmes de la CENAMO, Cellule Nationale d'Appui à la Mobilité, créée sous François Fillon en 2011, spécialisée dans la lutte contre les actions de désobéissance civile. D'abord, ils nous ont filmés sans nous demander notre autorisation. Puis, ils ont voulu contrôler nos identités. Comme on a refusé, ils nous ont emmenés, menottés, au poste de police de Valence, poursuit Jo. Zaya, là-bas, ils nous ont mis dans des cellules. Moi, j'étais avec quelqu'un, ça m'a franchement sauvée, parce que 30 heures de garde à vue dans une cellule insalubre, c'est dur. Jo témoigne, un flic aussi était agressif avec nous. Il ne nous donnait pas d'eau, il nous appelait par de faux noms. Une version contestée par le policier en charge de la communication du commissariat de Valence. Tous les policiers ont des caméras poitrinaires. Nous avons l'obligation de filmer les interventions pour en garder une trace, que les personnes soient d'accord ou pas. Quant aux conditions de garde à vue, ce sont les mêmes que dans tous les commissariats de France.
Alors, y a-t-il eu une reconnaissance faciale ? Jo poursuit. L'officier de police judiciaire nous a donné des noms qui n'étaient pas les nôtres, sauf pour moi. On leur a dit, mais on a compris qu'ils avaient utilisé la reconnaissance faciale. Ça ne les a pas empêchés de déférer mes camarades au tribunal sur la base de fausses identités. Contacté sur l'usage de ce logiciel, confirmé par le procès-verbal d'audition consulté par le Crétois, le procureur de Valence n'a pas souhaité faire de commentaires et l'avocat des manifestants, maître Thomas Fouret, s'étonne. On peut utiliser le traitement des antécédents judiciaires avec un logiciel de reconnaissance faciale, mais généralement, c'est en matière criminelle ou pour les mineurs, pas pour les délits comme l'entrave à la circulation.
Maud Grard, conseillère régionale écologiste, dénonce « En photographiant et filmant de manière illégale, contrainte toutes les personnes mobilisées dans les actions de désobéissance civile, les services de justice et de police s'engouffrent dans une dérive grave de fichage d'opposants politiques, dans la perspective de les faire taire. C'est du jamais vu, on est allé jusqu'à placer en détention provisoire des personnes dont on ne connaissait pas l'identité. » Si Saya et Joe ont fini par être relâchés dans l'attente de leur comparution immédiate le 18 mai, car elles ont donné leur identité, 5 autres militants mal identifiés ont passé le reste du week-end en prison à Lyon. Zaya se dit encore choquée. Au bout de 24 heures de garde à vue, on m'a emmené à l'hôpital voir le médecin. J'étais menottée tout le long, le médecin ne m'a même pas approchée, c'était vraiment délirant. On a été traités comme des criminels. Alors qu'on tenait juste une banderole, complète Joe. Les deux Crétoises se demandent surtout comment faire pour exercer leur liberté d'expression. Manifester, ça ne sert à rien. Voter, on l'a vu aux dernières législatives non plus. On doit pouvoir exprimer son désaccord. Mais comment faire ? Quand la SNCF bloque les trains ou les agriculteurs bloquent l'autoroute, ils ne se retrouvent pas au tribunal. Zaya, Joe et leurs camarades seront jugés le 6 juillet prochain pour mise en danger volontaire de la vie d'autrui, entrave à la circulation et refus de signer à l'éthique. « Tout ça pour une banderole », répète Zaya effarée. C'est un article de Blandine Flipeau.
La Fab Unit va définitivement fermer. L'atelier de recyclage du 8 Fab Lab organise une dernière braderie. Installé depuis 2014 dans la discrète petite rue Courcommer, l'atelier de fabrication 8 Fab Lab a eu le temps de se développer largement. Ainsi, dans ces vastes locaux, si bien cachés et hors les murs, se déploient pas moins de 5 activités. L'aide à l'apprentissage pour la fabrication d'objets électroniques, en bois ou en céramique, grâce notamment à des imprimantes 3D. L'expérimentation, avec la possibilité offerte aux petits et grands d'apprendre à fabriquer et ou réparer eux-mêmes leurs objets. Le coworking, avec la mise à disposition de bureaux, la formation professionnelle au service des artisans et artisanes de la vallée. Et enfin, le projet expérimentable de la Fab Unit, visant à collecter du plastique utilisé dans la vallée afin d'en faire des objets. Ainsi, pendant 5 ans, des kayaks ont donné vie à des chaises dans la Fab Unit située à Eure. Hélas, le 8 Fab Lab a pris la décision de mettre fin à cette expérience au début du mois de mai. L'un des 3 co-directeurs de la coopérative du 8 Fab Lab, Théo Yvon, explique « Le chiffre d'affaires de la Fab Unit allait croissant chaque année. Cependant, son financement reposait en grande partie sur des subventions accordées par l'Association nationale de cohésion des territoires dans le cadre d'un programme visant à valoriser les déchets plastiques, soit environ 80 000 euros sur les 180 000 euros de budget. » Or, ce programme n'a pas été renouvelé. En 2026, les bons résultats n'ont pas suffi à combler ce trou et ne risqueront pas un jour de le faire. La Fab Unit n'a jamais pu recevoir 1 euro de la taxe d'éco-contribution collectée par les éco-organismes auprès des producteurs de meubles.
laquelle doit théoriquement être versée aux entreprises faisant du recyclage venant de l'économie sociale et solidaire. Une taxe qui est aujourd'hui massivement détournée au profit de ces mêmes fabricants qui recyclent eux-mêmes leurs produits. Si le coût est rude, la coopérative a surtout choisi de fermer la Fab Unit pour mieux préserver l'avenir, en ne prenant pas le risque d'un trou dans les finances. Vincent Bidollet, co-directeur, poursuit. Nous avons de beaux projets qui arriveront en 2026 et 2028, notamment en partenariat avec un autre Fab Lab portugais et avec l'Europe afin de permettre à des personnes aux besoins particuliers de bénéficier de notre aide dans le domaine de la santé. L'atelier 8 Fab Lab va ainsi pouvoir fabriquer sur mesure des objets utiles au quotidien pour des personnes atteintes des maladies d'Alzheimer ou de Parkinson, ainsi qu'aux femmes atteintes de cancer du sein, ne trouvant pas de dispositif adapté pour elles dans le commerce. Pour atteindre cet objectif et continuer son travail dans le territoire, le 8 Fab Lab fait appel à tous ceux et celles qui souhaitent prendre une part sociale au sein de la coopérative, en espérant atteindre la somme de 75 000 euros d'ici le 14 juillet. D'ici là, ses membres invitent les personnes intéressées à son conseil d'administration qui aura lieu le 9 juin prochain à la Fab Unit de 14 à 18 heures, lequel sera suivi d'une braderie pour liquider le stock. Avis aux amateurs de chaises design made in Drôme. C'est un article de Blandine Flippot.
La Prairie, un quartier en scène, cirque et fanfare au pied des immeubles. Les 30 et 31 mai, c'est au cœur du quartier La Prairie que s'est installée la quatrième édition de l'événement Quartier en scène, porté par le Centre social et culturel municipal Créactif. Durant deux jours, près de 400 personnes, habitants du quartier ou non, ont répondu à l'invitation de Créactif. Au menu, des ateliers cirque et jonglage le samedi matin, un spectacle jeune public avec la compagnie La Panthère Noire l'après-midi, puis le dimanche, café en musique avec la fanfare de poche, trio Ciao Nino et son spectacle acrobatique costume par les triphasés. Pour Sylvain Barlatier, directeur du Centre social et culturel, Quartier en scène a vocation à rendre la culture accessible à un large public. Après le quartier du Grand Valla en 2023, de la Condamine en 2024 et des arbres écrits en 2025, c'est donc La Prairie qui a servi de scène pour cette édition 2026. Anne Armagnat, adjointe déléguée aux affaires sociales et à la culture, participait pour la première fois en tant qu'élue à l'événement qui, précise-t-elle, avait été préparé par l'équipe de Créactif en amont des élections municipales. Ce sont des moments précieux pour nous élus. J'ai pu aller à la rencontre d'habitants pour discuter de notre envie de créer avec eux des espaces d'échange concernant la culture dans les quartiers, indique-t-elle. Dès la prochaine rentrée scolaire, un travail de concertation associant salariés du centre social, habitants et élus devrait être engagé, selon Anne Armagnat. D'ici là, chacun peut se joindre à la grande fête de Créactif le vendredi 19 juin de 17h à 20h30, l'occasion de découvrir les multiples activités du Centre social et culturel municipal. C'est un article de Sophie Sabot.
Et maintenant, partons pour Beaufort-sur-Gervanne. C'est un pari gagné pour la fête de la solidarité. Un bilan très, très, très positif se réjouit ce lundi 1er juin. Ludovic Kerek, l'un des initiateurs de l'événement, la Kermesse, organisée samedi 30 mai sur le stade de Beaufort-sur-Gervanne. Plus de 500 personnes, dont une centaine d'enfants, ont participé à cette grande fête foraine solidaire. Objectif des organisateurs, récolter des fonds pour financer l'hiver prochain le déplacement des bénévoles de la vallée de la Gervanne qui iront prêter main forte aux associations du territoire briançonnais, Hautes-Alpes, qui œuvrent pour la défense des droits et la dignité des personnes exilées. Au départ, la kermesse était un projet de copains. Elle est devenue un projet villageois qui a pu voir le jour grâce à l'implication d'une vingtaine de bénévoles, précise Ludovic. L'accès à l'événement était à prix libre et conscient et la générosité a été au rendez-vous. Du côté des visiteurs, ainsi que du côté des artistes qui se sont associés à cette kermesse, tous sont venus jouer gratuitement. Nous les avons juste défrayés pour leur déplacement. Côté spectacle, Brigitte Burdin et Gilles Rode ont offert une représentation de la terrible histoire de Thomas Sankara. Côté musique, du Niaza, Batax, Le Bonk, Acouphène, Voix Machine et Diginol ont fait vibrer la kermesse d'énergie positive, sans oublier les animations pour tous les publics, baptême de trapèze ballant, sculpture collective de terre, atelier valorisation de la laine. Quant à la restauration, elle était assurée par une cantine solidaire tenue par deux associations, la Maison d'Elisa à Vercheny et le Parallèle à Die, qui ont pu ainsi récolter des fonds pour assurer leurs actions solidaires. Un article écrit par Sophie Sabot.
Et maintenant, place à la musique. Aujourd'hui, c'est Nathalie Prieto du groupe Chimcham.
La belle de ce convainc belle, il a le goût de l'immobile. Rêve qu'on le laisse là, en paix tranquille, de le phare sur son île.
Et maintenant, le moment que vous attendez tous, notre voyage de la semaine sur les événements dans la vallée de la Drôme. Aujourd'hui, à Crest, la chorale Tout en Nuances est en concert au Temple de Crest. C'est à 20h30 et c'est un répertoire pas si bête, vous avez compris le jeu de mots. Alors, je tourne les pages. À Oust, à Les Labos de Paulette, le 9 juin, spectacle Martin Brun par la compagnie Tout Court. Bar des 18h, spectacle à 20h, tout public et c'est un prix libre. Et à Cobonne, Conte au Jardin, à ne pas manquer. Le 6 juin, c'est-à-dire aujourd'hui, de 15h30 à minuit, 5 conteurs professionnels vous emmèneront dans leur univers. Voilà, c'est à Cobonne. À Heure, il y a une exposition, L'Heure Verte, qui propose l'exposition Nos Amis les Forêts au Temple d'Heure. C'est visible mercredi 10 juin de 10h à midi et les vendredis 5 et 12 juin de 16h à 19h. Et je continue à tourner les pages pour vous dire qu'il y a un running à Montméron, les 6 heures de Montméran. C'est le 13 juin. N'oubliez pas cette date, c'est le 13 juin à Montméran. Un concert vocal. Le chœur de Montoison, Tout en Nuances, sera en concert le samedi 13 juin à 20h30 au Temple de Montméran. Et puis à Alex, le marché des peintres et des artisans a lieu le dimanche 7, c'est demain, de 9h à 17h à l'espace Saint-Joseph. L'archipel organise une fête de la terre samedi 13 juin. À Alex, de 16h à 22h, dans le parc du château des Ramières. À Granes, il y a un concert au temple le vendredi 12 juin à 20h. C'est le concert de la pianiste Mathilde Cuissard. Et je continue à tourner les pages pour vous dire qu'à Soues, il y a un programme, un événement de marionnettes, ça s'appelle Le Manteau d'Akaki, d'après Gogol, au Théâtre des Marionnettes, tout public dès 7 ans au Zigzag. C'est le 10 juin, 11 et 12 juin, 19h. Dans les pages suivantes de notre magazine, de notre journal favori, nous trouvons... Ah, mais j'ai l'impression qu'il y a Sarah, en page 16, un événement dans le cœur de la forêt de Soues. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Ben oui, bien sûr. Comme tu parlais de Soues, j'ai pensé, il y a là... Dans le village, mais dans la forêt, les mardis 9 et mercredi 10 juin à 21h, c'est Nathalie Pernette qui propose un spectacle de danse immersif au cœur de la forêt, inspiré du mot « oui » en Sioux, Lakota Téton.
symbole du soleil, de la lune et de la création. Le rendez-vous est devant l'auberge des Dauphins à 21h. Il faut compter 1h30, mais il est préférable de réserver auprès du Luxe Scène Nationale de Valence via luxvalence.com.
Et puis, c'est le retour des guinguettes d'Elisa à Vercheny tous les vendredis. Et vendredi 12 juin, témoignage d'habitants du Diwa qui se sont rendus en Cisjordanie. Il y a un marché de créateurs le dimanche 7 juin à Cré dans la cour de l'école Royané. Ça s'appelle les Petites Mains. Et ah, mais alors un concert exceptionnel d'un accordéoniste et d'un poète. Je suis sûr, Fabien, que tu les connais.
Oui, mais Sophie aussi les connaît.
C'est Daniel Mille et Patrick Bouyan, l'accordéoniste et le poète, seront réunis ce dimanche 14 juin, notez bien la date, à Cobonne. Et ce dimanche 14 juin à Cobonne, c'est à 19h. Ne manquez pas ce rendez-vous.
Un film maintenant, With Love and Rage, vous avez vu l'accent. Une réalisatrice au Phare d'Alex, le 11 juin à 20h, nous propose une incantation à la fois politique et musicale. C'est le 11 juin au Phare pour le dernier opus de Cinéphare de la saison. Et puis, j'en ai déjà parlé, Mathilde Cuissard, piano, le vendredi 12 juin à 20h au Temple de Granne. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Il y a un trio soprano le dimanche 14 juin à 18h à la chapelle Saint-Jean de Crupy. Et puis voilà, nous allons terminer. Eh bien, nous allons terminer par un jeune prodige. Et je crois, Sophie, que tu vas nous en dire plus.
Eh bien, effectivement, tu as bien raison, Thierry. C'est un jeune prodige, Lubin Godin. C'est un jeune prodige de la photographie animalière. Et donc, il va, à 14 ans, exposé à Saillant les 13 et 14 juin avec d'autres nombreux photographes. Ils sont 12, des photographes naturalistes amateurs pour témoigner de la beauté de notre environnement. Ne loupez pas cette expo Photodrome. C'est à la salle des fêtes de Saillant de 10h à 13h et de 14h à 19h et l'entrée est libre.
J'ajoute quelque chose, c'est à Chabrian, samedi et dimanche 6 et 7 juin. Alors, cette année encore, une vingtaine de peintres et de sculpteurs de l'atelier Terre de Brume exposeront leurs œuvres dans un parcours de découverte poétique. C'est le jardin des Terres de Brume, accessible les deux jours, inscrit. Et bien voilà, je vous ai tout dit. C'est fini pour aujourd'hui.
Merci Thierry. Et bien donc, ça n'était qu'une une partie émergée de l'iceberg Le Crétois, puisqu'il y a encore plein d'articles à lire. Et si vous voulez les lire, et notamment tous les articles au plus près de chez vous, à Granne, à Saillant, à Puy-Saint-Martin et ailleurs, vous pouvez vous précipiter chez votre marchand de journaux pour acheter le numéro. Vous pouvez également vous abonner pour recevoir votre numéro de Crétois dans la boîte aux lettres ou vous pouvez encore vous précipiter sur le site internet le-crétois.fr. Voilà, aujourd'hui autour de la table, il y avait donc Thierry, Sarah, Doris, Fabien, Sophie, à la technique Béatrice et Raphaël. On lisait le Crétois devant un public très nombreux dont j'ai oublié le prénom, désolé. Merci à tout le monde et merci à vous de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine.
Le Crétois,
c'est le journal de la vallée.
La vallée de la Drôme.
Et il paraît tous les vendredis.
C'est un hebdomadaire.
Et nous, à la radio.
Ça fait réole la radio.
Le journal, on le lit.
Pour vous.
Ça s'appelle Lecture du Crétois.
Et pour cette semaine.
C'est fini.